Chers amis auditeurs, nous voilà à notre rendez-vous du mardi, une fois tous les 15 jours. Et ce soir, nous continuons avec mon vieil ami Jean Larmande, pied noir s'il en fut, de vieille souche pied noir. Et nous voulons continuer cette étude que nous avons commencée sur l'Algérie, et l'Algérie française en particulier. Et ce n'est pas simplement des propos historiques en passant, mais je compte bien, quand nous aurons avancé dans notre historique, en tirer des leçons, parce que je pense qu'on s'est trompé lourdement dans les décisions qui ont été prises dans les années 60 et que nous payons aujourd'hui une très très grave erreur qui est à la fois stratégique, tactique, qui en plus de ça a eu des caractères d'immoralité épouvantable. On pense aux gens assassinés et en particulier aux harkis, qui étaient aux musulmans fidèles à la France. La France n'a pas le droit de faire ça, voilà, tout simplement. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Et ça peut être le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Ça ne se fait pas comme ça. Il y avait des solutions à trouver. Nous en reparlerons parce que nous payons aujourd'hui les conséquences, en grande partie les conséquences de ces, de cet abandon, de cette livraison de l'Algérie à une bande de terroristes, FLN, qui se sont d'ailleurs fait eux-mêmes remplacer par une autre bande de terroristes encore plus, dès les années 62, encore plus terrible qu'eux. Et évidemment, les accords d'Évian n'ont jamais été respectés. On est en train de nous parler des accords de 68, mais il faudrait commencer par parler de ceux de 62, qui non seulement n'ont pas été respectés, mais qui ont été bafoués, où les intérêts français et l'honneur même de la France a été, en quelque sorte, pour ainsi dire, violé. Et je pense que tout ça est très important, que ça a eu des conséquences aussi sur le plan spirituel et sur le plan intellectuel français. Moi, j'ai vécu ça comme jeune étudiant, puisque moi-même, j'ai été arrêté dans cette époque sous prétexte d'Algérie française, de façon d'ailleurs tout à fait indue. Et j'ai bien vu l'évolution de l'opinion publique. Et quand on dit que la gauche s'est emparée de l'université, mais c'est précisément à ce moment-là, et la gauche était le principal soutien, d'une certaine manière, de la politique gaulliste extérieure. Alors même si, par la suite, évidemment, ils ont rejeté De Gaulle une fois que De Gaulle a accompli ce qu'il voulait qu'il fît et qu'il a fait. Et ensuite, les partis et les gauchards se sont débarrassés de lui parce qu'il ne présentait plus d'intérêt, tout simplement. Alors, on reviendra sur tout cela. Ce sont beaucoup de réflexions, oui, beaucoup de réflexions politiques, mais pour le moment, nous sommes dans la partie historique et je vous rappelle qu'il y a trois semaines ou un mois, nous avons, avec Jean Larmande, évoqué déjà une grande partie de l'histoire de l'Algérie, mais avant 1830. Et je laisse la parole à mon ami Jean, qui est un spécialiste de la question et qui la connaît, et qui la connaît de l'intérieur, puisque lui-même, arrière-grands-parents se sont installés en Algérie dès ces années de la première colonisation. On appelle ça colonisation, oui, mais en fait, c'était plus qu'une colonisation. C'était dans un esprit de francisation. Je te laisse la parole, cher Jean, et nos amis, vous pouvez, chers amis auditeurs, vous pouvez évidemment intervenir et faire vos réflexions. Bien poser des questions, bien que l'heure soit effectivement un peu tardive et que je crois qu'à cette heure-là, on préfère écouter plutôt que d'envoyer des courriels.
Voilà. Alors, au début du 19e siècle, l'Empire turc contrôle une grande partie des côtes de la Méditerranée. Oui. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'abord toute la côte sud, depuis l'océan Atlantique jusqu'au Moyen-Orient, à l'exception de quelques préside espagnol qui reste, mais par exemple, la plus grande possession qui était la ville d'Oran, oui, a été abandonnée par l'Espagne en 1790. Alors, l'Empire turc contrôle aussi toute la Méditerranée orientale,
qu'on appelait à l'époque l'Empire ottoman.
L'Empire ottoman, oui, et la côte est de la mer Adriatique.
Oui.
Alors, il faut savoir que les Ottomans étaient une des tribus turques.
Oui, ils tenaient ce qu'on appelle aujourd'hui l'Albanie, la Valachie.
Et ils sont arrivés en fait là-bas, à peu près au moment des croisades. Bon, la seule partie, disons, au début du XXe siècle, qui n'est pas contrôlée par les Turcs, c'est le nord de la mer Adriatique, la côte est de la Sicile, de l'Italie, jusqu'à la Sicile, ensuite la côte ouest de l'Italie, la France, et la côte espagnole, jusqu'à ce qui est aujourd'hui Gibraltar, plus quelques îles, la Corse, etc.,
et les
Baléares. Malte et les Baléares. Alors, maintenant, parlons de l'Empire turc, parce que on ne peut bien comprendre ce qui se passait en Algérie et ce qui s'est passé après, qu'en comprenant d'abord comment fonctionnait l'Empire turc dans ses possessions. L'Empire turc, il faut le savoir d'abord, est un empire sunnite, c'est-à-dire c'est un empire musulman. Donc, ces règles, c'est le Coran et la charia. Alors, dans les régions qu'il contrôle, l'Empire s'appuie sur des pouvoirs locaux musulmans, qui sont en général des chefs de tribus, des princes, des nobles, etc., qui appliquent le système musulman, qu'ont Coran et charia, mais qui sont sous l'autorité, un peu lointaine, mais enfin l'autorité de gouverneurs turcs appuyés par l'Odjak, c'est-à-dire la force armée professionnelle des janissaires. Alors c'est, en fait, ce système-là, on peut dire, ah oui, mais c'est le système qu'avait mis en place l'Empire romain, puisque à l'époque romaine, disons, en Palestine, à l'époque du Christ, il y avait un roi, qui s'est appelé Hérode, et un gouverneur romain qui s'est appelé Ponce Pilate. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous les deux en même temps, simultanés, mais enfin, de toute façon, on parle beaucoup de Hérode et de Ponce Pilate, mais je n'ai pas leur date d'arrivée et de départ. Alors, et dans tous ces territoires, les Turcs n'ont pas un objectif civilisationnel, de toute façon, sauf si on considère que imposer le Coran et de la civilisation, mais ils ont un objectif purement, essentiellement financier et de puissance. Leur objectif, c'est prélever l'impôt sur les populations locales. Prélever là aussi le tribut sur leurs activités. Attaquer les villes et les terres non musulmanes pour les piller. Ou pour les faire piller, parce que c'est très facile aussi, on le verra tout à l'heure, faire des prisonniers pour les vendre comme esclaves, et surtout recruter des janissaires, et en particulier des adolescents non musulmans, enlevés à leur famille, puis convertis. Voilà donc la mission des Turcs, et pour ça, ils n'ont pas besoin d'être partout, pourvu qu'on les craigne et qu'on leur obéisse.
Alors, c'est leur politique.
Comment ça s'appelle ? En Méditerranée occidentale, donc, il y a eu au XVe siècle la reconquête de l'Espagne par les chrétiens, qui se termine en, je crois que c'était 1493, mais je mets pas ma main au feu, par la libération de... Grenade. Mais les chrétiens, les Espagnols, ont cherché à poursuivre la Reconquista jusque en Afrique du Nord, puisqu'il faut se souvenir que l'invasion musulmane est passée en Afrique du Nord pour aller Espagne et dans le sud de la France.
Bien sûr.
Donc là, les Espagnols, et puis aussi voulaient faire le chemin inverse et repartir par là-bas pour aller. Ils n'avaient pas encore défini clairement jusqu'où ils voulaient aller, mais a priori, il n'y avait pas de limite avant la Palestine. Mais donc, ils ont cherché à le faire, mais là, ils ont été battus. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont occupé quelques présides, ils ont occupé Oran. Mais c'est tout ce qu'ils ont pu faire. Et en revanche, quelle est l'activité des musulmans qui sont dans ces régions-là? Ils sont à la fois sur la mer et dans l'intérieur. Mais ils contrôlent d'abord la côte et leur activité la plus intéressante est la piraterie, activité extrêmement rentable, puisque les bateaux pirates qui partaient des ports, donc Alger, Tunis par exemple, ou en Libye, Tripoli, attaquent les navires marchands. Ils leur prennent, ils sont souvent armés, mais enfin les autres sont beaucoup plus forts, prennent leur cargaison, ils gardent et prennent leur cargaison, c'est-à-dire qu'ils la récupèrent, et puis ils la vendent ou ils l'utilisent, mais en général ils la vendent. Ils gardent ou vendent les bateaux, et ils vendent l'équipage et les passagers comme esclaves pour les hommes, et dans les harems pour les femmes. Et ils prolongent cette piraterie en attaquant les villes et les villages chrétiens de la côte nord et espagnole. Et d'ailleurs, certains, on voit ça encore aujourd'hui, pour se protéger, sont construits sur les hauteurs, c'est l'exemple de Aise ou des villages de Corse.
Oui.
Alors, la France réagit depuis cette époque-là en attaquant les bases de pirates. La marine royale a souvent attaqué Alger ou 1000 blocus.
Louis XIV en particulier.
Louis XIV. 1000 blocus autour d'Alger. Et par exemple, il y a eu une grande innovation. La France a développé à ce moment-là, on appelait les galiotes à bombes, pour justement attaquer avec des armes à tir courbe, puisque les villes. Et surtout, c'est à l'époque, les canons ne tiraient que des boulets, alors que là, les galiotes à bombes tiraient, ce qui sont aujourd'hui des obus de mortier, enfin, etc. C'est-à-dire, on mettait une bombe, un gros truc cylindrique plein de poudre dans le canon à tir courbe, et on allumait simultanément la poudre du canon et la mèche.
Oui.
De la bombe qui partait et qui arrivait de l'autre côté. Alors, si vous voulez d'ailleurs voir ce genre d'engin, il suffit d'aller aux Invalides. Vous entrez dans les Invalides. Et maintenant, après les travaux de réfection, dans l'entrée principale, il y en a trois ou quatre qui sont là. Leur calibre est assez gros d'ailleurs. Donc voilà, donc la France réagit comme ça, mais aussi. Elle réagit de manière plus commerciale, disons, en rachetant les captifs et en négociant avec les autorités turques, le dé d'Alger, des exemptions de piraterie moyennant paiement de tribut. Alors attention, le mot tribu, j'ai beaucoup l'utilisé. Il y a deux écritures. Il y a la tribu qui est un ensemble d'êtres humains et le tribu qui sont des espèces sonnantes et trébuchantes.
Et qui se termine par un T. Tributaire.
Donc c'était ce qui se passait. Et d'ailleurs, mais la France n'est pas la seule à faire ça, puisque les Espagnols le font. L'ordre de Malte mène le même combat contre la piraterie. Et, je ne sais pas si je l'ai dit, la France rachète des esclaves ou les fait racheter par des ordres religieux.
Les trinitaires.
Les trinitaires font ça. L'ordre de Malte est aussi un ordre religieux. Mais d'autres pays interviennent de la même façon, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, et même d'autres pays beaucoup plus lointains, puisque si on va à Boston, qui est quand même de l'autre côté de l'Atlantique, il y a dans le port de Boston deux frégates qui ont été construites au moment de la guerre d'indépendance américaine, et qui d'ailleurs portent le nom l'une d'Independence et de l'autre Constitution. Et ces deux bateaux, sont jolis, ce sont des musées flottants. Et lorsque on les visite, le guide montre des boulets qui sont encastrés dans le bordage de la dunette venant de l'extérieur. Et ils nous disent que ces boulets viennent de canons arabes lorsque les bateaux ont bombardé Tunis pour récupérer un bateau américain pris par les pirates barbaresques. Voilà le.
Oui, et donc, c'est très intéressant, c'est très intéressant de savoir ça. Oui, bien sûr.
Ça vient de loin. Bon, alors, ça, ça existe. Alors, donc, il y a des périodes où les conflits sont beaucoup plus chauds et puis d'autres où ça l'est un peu moins.
Oui, et puis les préoccupations étaient ailleurs.
Voilà. Oui, tout à fait. Mais, face à cette menace permanente, Napoléon Ier, donc qui est revenu d'Égypte, avait fait reconnaître par un de ses officiers, qui est le chef de bataillon Boutin, les possibilités de débarquement sur la côte près d'Alger.
Oui, oui, oui.
Puisqu'il y avait eu des tentatives de débarquement, l'une de Charles Quint en 1540, et l'autre de, alors je ne me souviens plus du nom, qui était un amiral d'origine scandinave et qui commandait une flotte espagnole vers 1740 ou quelque chose comme ça. Donc, donc voilà pour la situation. Mais devant cette disons permanence de la piraterie sur les mers et barbaresque sur terre et dans les mers, le roi de France. Et puis alors c'était l'époque après la Restauration et au moment où à la fin de la guerre d'indépendance grecque, c'est-à-dire dans les années, je crois que c'est 1820, donc c'est tout à fait ça. Et le roi de France.
La bataille de Navarre.
Oui, le roi de France, l'empereur d'Autriche et le tsar de Russie ont négocié un accord pour chasser de la Turquie, pour chasser la Turquie de la Méditerranée et se partager les territoires qui seront reconquis. Sans doute avec une partie qui iront aux Italiens, etc., enfin aux principautés italiennes, mais enfin, l'objectif, c'était ça. Alors, l'Angleterre, qui avait eu connaissance et qui avait été écartée de cet accord, cherchait bien évidemment à s'y opposer, et on verra qu'ils vont...
En a gardé une haine continuelle, et qui a continué au moment de l'affaire de la guerre d'Algérie. L'Angleterre a comme ça des traditions anti-russes, par exemple, donc ce qui fait qu'elle... Ses services soutiennent systématiquement l'Ukraine, mais ça, c'est parce qu'elle s'oppose à la Russie depuis toujours, dans les affaires du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, et puis également pour l'affaire de l'Algérie. Elle s'oppose à la France parce que la France a pris cette décision, et c'est très intéressant de lire les textes dont généralement les historiens ne parlent pas. Pas ou très peu, Bainville un petit peu, Gaxot un petit peu, quelques historiens de Charles X, mais ces textes qui sont d'ailleurs, je crois, dans les archives du Quai d'Orsay, j'ai eu l'occasion de les étudier de près, c'était extrêmement intéressant. On rit de ce prétendu partage, mais ce prétendu partage, il était très réel et qui consistait, on savait qu'on assistait à la fin de l'Empire ottoman, c'était la question de la fin de l'Empire ottoman. Et le roi de France, l'empereur d'Autriche-Hongrie et le tsar de Russie se sont entendus, mais indépendamment des Anglais qui prétendaient pourtant tenir la Méditerranée. Ils avaient mis la main sur Malte grâce en grande partie à Bonaparte d'ailleurs, à l'échec de Bonaparte. Et donc la Russie pourrait continuer sur Constantinople, son avancée, et son avancée vers les mers chaudes, l'Autriche-Hongrie gagnerait l'Adriatique, ce qui lui permettrait d'avoir une marine et d'avoir des ports à sa disposition. Et puis la France, il était question de l'Algérie, mais on évoquait aussi la possibilité d'aller jusqu'en Égypte, et un peu ce qu'avait fait Saint-Louis en son temps... au XIIIe siècle, quand il avait débarqué à Tunis pour essayer, ça a été toujours la même chose, essayer de porter atteinte à l'Empire musulman en l'attaquant principalement sur l'Égypte.
Oui.
Et alors l'Égypte, l'Angleterre la considérait comme à elle.
Voilà. Tout à fait.
Alors qu'elle avait été sous influence française, et même encore à l'époque, il y avait, et puis même encore maintenant... une implantation en particulier de collèges français, comme au Liban, bien sûr, et comme dans tout le Moyen-Orient. Donc c'est très important cette affaire parce que je pense que c'est là se trouve l'origine d'une espèce de volonté de la part des Anglo-Saxons d'exclure la France de l'Afrique du Nord et de...
Oui, je suis peut-être un tout petit peu plus loin en disant que l'Angleterre n'a jamais eu d'autre ami qu'elle-même.
Oui, bien sûr. Mais elle a comme ça, c'est quand même ces haines traditionnelles et ces politiques absolument imperturbables à travers l'histoire. Alors, continue, mon cher Jean, c'est passionnant.
Donc, nous allons donc parler maintenant de l'Afrique du Nord, dont le nom, Paul, c'est le Maghreb.
Oui.
Et il faut se voir que le Maghreb vient de Dar el Maghreb, c'est-à-dire l'île du couchant, traduction française, parce que c'est le nom donné par les Arabes à l'Afrique du Nord, vue de l'Est.
Bien sûr.
Les terres de l'Afrique du Nord sont en fait comprises entre deux mers, une mer liquide qui est la Méditerranée au nord, et une mer de sable saharienne au sud.
C'est ça.
Et à l'intérieur de ce Maghreb, il y a ce qu'on appelle la Régence d'Alger, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui l'Algérie, et qui est encadrée d'un côté par le Maroc, et de l'autre côté par la Tunisie, mais dont je ne me souviens plus si le Bétunis dépend du dé d'Alger ou pas, je crois que oui. Mais enfin,
d'une certaine manière, je crois, tout à fait.
De toute façon...
Il ne faut pas du tout se représenter l'Algérie avec la population telle qu'elle était aujourd'hui.
Oui,
tu vas expliquer ça. Oui,
tout à fait. Alors, en 1830, pourquoi 1830 se passe? C'est que les relations entre le Royaume de France et la Régence d'Alger sont devenues encore pires qu'ils l'étaient avant. Il y avait eu des relations commerciales, on reviendra là-dessus par exemple, à l'époque du directoire pour acheter du blé en Algérie. Avec la Régence d'Alger, il n'y avait pas que des relations militaires de lutte contre la piraterie, etc.
Et l'esclavage.
Il y avait aussi du commerce.
Oui.
Bon, donc les relations entre le Royaume de France et le Royaume d'Alger deviennent encore plus mauvaises parce que en 1826, il y a des bateaux français qui sont arraisonnés et des cargaisons pillées. Alors qu'il y avait un traité dans lequel la France payait un tribut pour éviter ça. Et en plus de ça, ils font la même chose avec des bateaux du Saint-Siège qui sont protégés par la France et donc couverts par le même traité. Et puis, en 29 avril 1827, qui est la veille de l'Aïd Srir, la fin du Ramadan, le dé d'Alger convoque, une fois de plus, le consul de France à Alger, Delval. Et il lui reproche publiquement l'absence de réponse de la France à ses demandes d'explication sur l'installation de canons au Bastion de France, qui est une citadelle qui protège le comptoir français de la Cale.
Oui.
Le comptoir est près de Beaune, donc dans l'est algérien, pas loin de ce qui est aujourd'hui la frontière France entre l'Algérie et la Tunisie. Et ce port de la Cale est attribué aux Français, enfin les Français peuvent l'utiliser, ça fait toujours partie du Maghreb, mais ils peuvent l'utiliser et ils l'utilisent essentiellement pour le commerce, c'est-à-dire c'est là-bas qu'ils vont chercher le blé qu'ils achètent, ou pour la pêche du corail. Voilà, et donc, pour je ne sais trop quelle raison, il y a des canons, et donc le dé est furieux. Et il réclame aussi, alors ça c'est une opération plus compliquée, à la France, le paiement du blé qui a été vendu à la France à l'époque du directoire. Mais alors là, il s'agit d'une affaire extrêmement compliquée. Parce que, donc, au moment du directoire, la France a acheté du blé mais avec, au travers de deux intermédiaires juifs de Livourne.
Oui.
Alors, qui s'appellent Bakri et Busnak. Excusez ma prononciation.
Oui, non, c'est pas grave.
Je
ne
sais pas.
Tout le monde comprend.
Voilà.
Oui. C'est une affaire connue.
Alors, oui. les magouilles ont commencé parce que Bakri et Busnak avaient réussi à ce que les bateaux qui sortaient avec le blé se fassent arraisonner par les pirates pour acheter les produits à meilleur marché, etc. Enfin, je passe là-dessus. Le roi de France dit qu'il a payé à Bakri et Busnak.
Et qu'il n'est pas question de payer une deuxième fois.
Mais ceux-ci n'auraient rien versé au dé d'Alger.
Bien sûr.
Ils avaient conseillé au dé d'Alger d'acheter à bas prix les créances détenues par les commerçants arabes qui avaient vendu le blé. Donc vous voyez, on est dans la magouille la plus sordide. Donc le dé d'Alger avait convoqué donc l'ambassadeur de France, mais honnêtement,
le consul
de France, pardon, d'Elval, bon, j'avais forcément une très bonne réputation, mais pour lui parler, c'est surtout le problème des canons. Parce que comme il n'a pas de réponse, il prend son chasse-mouche et il donne un coup de chasse-mouche sur la joue
du consul
et publiquement, parce qu'il avait demandé au consul de venir sans lui dire qu'il y aurait un tas de ses confrères consuls d'autres pays là-dedans. Donc c'est le fameux coup d'éventail que la France prend très très mal. Dès qu'elle en est informée, elle envoie une escadre devant Alger pour exiger du dé des excuses. Alors, bien évidemment, le dé refuse, mais il a été largement conseillé par un dénommé Saint John, qui est le consul d'Angleterre.
Et comme par hasard.
Bon, devant le refus, la France entame aussitôt le blocus d'Alger. Et ceci, d'autant plus, là on est dans les années 30, que les bateaux d'Alger, quelque temps avant, avaient été convoqués par la Sublime Porte pour participer aux batailles de la région et en partie de Navarin.
Oui, c'est ça.
Donc le blocus permet d'éviter que d'autres ne les suivent. Alors, il y a des tentatives de négociation entre la France et le dé d'Alger qui sont menées par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Sardaigne, et une nouvelle escadre est envoyée à Alger, c'est plus importante, à la fin juillet 29, pour proposer au dé un accord de pure forme, que le dé... L'accord, c'était qu'ils reconnaissent sa responsabilité et présentent des excuses.
C'est ça.
Donc, vous voyez, vraiment, c'était... Alors, le dé refuse, une fois de plus, poussé à l'intransigeance par notre ami anglais. Et pire, il fait à ce moment-là, au moment où l'escadre française repart, il fait tirer sur la Provence, qui est le bateau amiral français, battant pavillon diplomatique. Donc là, une double...
Oui, bien sûr.
Voilà.
Double infraction.
Donc, ça, c'est en juillet 29. En août 29, Polignac remplace Villèle à la tête du gouvernement français. Et,
ce qui est dommage, d'ailleurs, entre nous soit dit. Mais ça, c'est plutôt de la politique intérieure.
Oui. Bon, d'accord. Et il tente...
Parce que Polignac n'était pas un esprit très politique.
Tout à fait. Et il tente
porte la responsabilité
une alliance
en grande partie avec la chute de la monarchie.
Oui. Avec le pacha d'Égypte, Mohamed Ali. Mohamed Ali propose une alliance, c'est-à-dire d'intervenir contre Alger, mais à condition qu'on lui fournisse les bateaux, etc., etc. Et puis finalement, le pacha, je pense que l'anglais doit intervenir suffisamment pour
éviter ça.
Et Polignac se rallie à la proposition de son ministre de la guerre, qui à l'époque est le comte de Bourmont, pour une expédition militaire contre la Régence. Bon, il faut dire aussi que Polignac y voit là un moyen opportun d'apporter la gloire d'une victoire à la monarchie contre un ennemi juré et pas
et
de
héréditaire pratiquement.
Oui, et pas de rentrer dans les guerres internes à l'Europe.
Oui.
Donc ça. Et donc la décision de débarquer à Sidi Ferruche est prise par le Conseil des ministres, pas une opération, dans le 6 février 1830 et approuvée par le roi Charles X le lendemain. Et le 2 mars, lors de l'ouverture de la session des chambres, le roi déclare « La réparation éclatante que je veux obtenir en satisfaisant l'honneur de la France tournera, avec l'aide du Tout-Puissant, au profit de la chrétienté. » Je pense que c'est un élément très important parce qu'il s'agit, pas directement d'une croisade, mais il s'agit de récupérer un territoire, etc. etc.
Et c'est situé dans une perspective. C'est situé dans une perspective.
Voilà. Oui, tout à fait.
Qu'est ce qui manquera à plusieurs reprises dans l'affaire d'Algérie, après.
Oui. Alors, la préparation de l'expédition a fait une opération complexe et qui a réussi grâce à la volonté de Polignac et à la ténacité du roi Charles X.
Parfaitement. Il faut lui mettre ça à son crédit.
Oui, ah oui, bien sûr.
Alors, et c'est une superbe expédition quand on l'étudie de près, l'affaire de Bourmont. Oui,
oui. Mais à ce moment-là, la France, sur le plan diplomatique, indique aux autres pays européens qu'elle voulait mettre fin à la piraterie, à l'esclavage et aux tribus sur la côte d'Afrique et y ramener la civilisation et rétablir la sécurité de la navigation en Méditerranée. Alors là, les réactions des pays européens sont intéressantes parce que les pays scandinaves, la Prusse, l'Autriche et la Russie y furent très favorables.
Mais bien sûr.
Bien que la Scandinavie n'avait pas beaucoup de présence en Méditerranée, et la Prusse encore moins.
Oui.
L'Autriche, si, parce que mais face aux Turcs, etc. Mais la pression de la population qui espérait la disparition de la menace barbaresque,
oui.
Espagne, Italie, font que l'Italie et l'Espagne, qui au départ ne disaient pas qu'ils étaient favorables à ça, parce que la puissance maritime française pouvait les effrayer.
Oui. Et puis l'Italie, ce n'était pas encore l'Italie. Hein.
Oui, tout à fait.
C'était
c'était des principautés. Ben, oui, mais enfin, si vous voulez...
Il y avait les royaumes des deux Siciles.
Oui, tout à fait. Mais, par exemple, je crois que c'est l'Autriche qui dit qu'elle verrait d'un très bon œil que la France reste à Alger.
Oui.
Et l'Espagne, après avoir réfléchi, dit au roi de France qu'elle accorde à la marine française des possibilités, des facilités d'escale au Baléares pendant la campagne.
Bien sûr.
C'est quand même...
oui, bien sûr.
Alors que les Baléares, il faut se souvenir, avaient été largement disputés entre l'Espagne, la France et l'Angleterre. Bon, bien évidemment, l'Angleterre reste opposée au projet et elle propose la médiation du sultan. Elle tente surtout d'obtenir de la France l'engagement de ne pas s'établir en Afrique. En Afrique, c'est-à-dire en Afrique du Nord.
Exactement.
Et Charles X refuse sèchement cela.
Tu connais l'anecdote de l'ambassadeur d'Angleterre allant trouver le baron d'Auxèze, qui était le ministre de la Marine.
Mm-hmm.
Et il va le trouver en lui disant « Monsieur le ministre, sachez que le gouvernement de sa gracieuse majesté est absolument opposé à cette expédition en Algérie et que ça contrarie les intérêts de l'Angleterre. Ouais. » Et l'ambassadeur d'Auxèze, c'est historique, hein, a répondu « Sachez, monsieur l'ambassadeur, que la France se fout de l'Angleterre. » C'est la première fois où ça a été vraiment dit, et on eût aimé que c'eût été dit plusieurs fois, en l'occurrence.
Oui.
Vas-y, continue.
Alors, sur le plan militaire, la préparation de la flotte et du corps expéditionnaire nécessitait un énorme travail, mobilisant les ressources, en gros, de toute la région, de Toulon à Marseille, etc. Mais
la flotte était considérable.
Hein, oui, bon, mais il y a eu un certain nombre de grands progrès techniques à ce moment-là. Et malgré les craintes, j'avais tout pris à temps, à l'heure, et même avec 15 jours d'avance sur la préparation de la marine, pour pouvoir débarquer à la bonne époque. Alors, il y a une flotte de 175 bâtiments qui ont été rassemblés. Il y avait 103 navires de guerre, et 72 navires de commerce.
Pour le transport de troupes.
Oui, du matériel.
Et du matériel, de siège.
Ça a été complété par 7 bateaux à vapeur, qui étaient une invention toute récente.
Oui, c'est ça.
Alors, l'amiral Dupéré a reçu le commandement de la marine,
de la flotte.
Et l'armée de terre a été confiée au comte de Bourmont, qui avait abandonné le ministère de la guerre pour prendre le commandement des troupes. L'armée de terre a été composée de 3 divisions d'infanterie, en gros 31 000 hommes, commandées par les généraux Berthezen, Loverdeau et le duc Descartes, complétées par un peu de cavalerie. Donc il y avait une 50 sabres, parce qu'il était très difficile d'embarquer
des chevaux.
Et les chevaux de la nourriture pour les chevaux, etc., etc. Mais alors, de les embarquer encore, ça, c'était faisable. Mais les débarquer en race, hors d'un port, était considéré comme à peu près impossible.
Oui.
Donc, il y a eu quelques chevaux, mais enfin, pas énormément. Du foin aussi. Bon, il y a aussi là-dedans de l'artillerie, on verra que la salle est tenue, du génie et des services, intendance, santé, etc. En tout, il y avait à peu près 37 000 hommes, ce qui est quand même une armée extrêmement considérable.
Oui. Pour l'époque, même si c'était inférieur aux expéditions napoléoniennes, la France avait reconstitué une armée, avait reconstitué une marine après les désastres de 1814 et 1815. Mmh. Dont les Français ne se souviennent pas. Mmh. On se souvient de la gloire napoléonienne, on ne se souvient pas de l'état dans lequel il a laissé la France après son départ.
Tout à fait.
Alors attends, j'ai des personnes qui nous écrivent. Mmh. Alors, message, monsieur, toujours très intéressante émission, merci. Je pense que c'est pour toi. Le mot Occident a exactement la même signification que Maghreb, soleil couchant, mais aussi ponant, signifiant « couchant » par opposition au « levant ». On est bien d'accord.
Oui.
Hein. La France n'était-elle pas endettée envers Alger ? Point d'interrogation. N'était-ce pas la raison du coup d'éventail ? Que penser de la thèse algérienne d'une invasion pour ne pas rembourser ses dettes ? Bien courtoisement. Réponds tout de suite.
Oui, je crois que je l'ai traité tout à l'heure. La raison numéro 1, du coup d'éventail, ça n'est pas cela, c'est la non-réponse de la France à la plainte du dé d'Alger à l'installation de canons à la cale.
C'est ça.
Le reste,
comme tu l'as très bien expliqué, la dette de la France, bien sûr, c'est l'explication que fournissent aujourd'hui les officiels de l'Algérie. Mais en réalité et concrètement, il y avait, comme tu l'as très bien dit, il y avait eu une entourloupe épouvantable.
Oui, tout à fait. Mais oui,
Charles X avait payé une fois, il n'avait aucune raison de payer une deuxième fois.
Non, c'est déjà payé au départ
directoire.
Le directoire. Mmh. Et ensuite, alors, tout ou pas, etc. Et je crois que le directeur avait payé sur la base du blé piraté.
Oui.
Mais enfin bon, là on rentre dans les arcanes des négociations commerciales.
Des turpitudes commerciales.
Alors le débarquement, c'est Divérus. Donc la flotte appareille de Toulon le 25 mai 1830, donc suffisamment tôt pour pouvoir arriver à la Régence et d'Alger, et puis occuper le terrain, etc., etc., avant l'automne. Oui. Donc c'était cela. Elle arrive le 31, donc au bout d'une petite semaine, en vue de ce qu'on appelle le Cap Katsin, qui est un calme dont je me souviens bien quand j'étais enfant, entre Alger et Sidi Ferruche. Mais comme Dupéret craint une tempête, elle détourne la flotte vers les Baléares. Elle y fait escale dans la baie de Palma de Majorque jusqu'au 10 juin. À ce moment-là, apparemment, le beau temps arrive et elle revient à Sidi Ferruche où le débarquement commence le 14 par un très beau temps, sans grande difficulté, face à un ennemi peu agressif. En fait, le dé d'Alger ne prévoyait pas un débarquement à cet endroit-là, il prévoyait une attaque d'Alger,
oui,
comme d'habitude, oui. Par la mer, oui. En face par le Peignon, etc.
C'était donc très astucieux de débarquer à Sidi Ferruche.
Oui, mais ça c'est... je crois que j'en parlerai tout à l'heure en expliquant que le débarquement à Sidi Ferruche a été fait à partir de l'étude de Boutin. Alors, le Dé Hussein rassemble des troupes. En fait, il avait déjà dû les rassembler à Alger, autour d'Alger, quand il a vu arriver les bateaux, les bateaux la flotte française. Et donc, quelles sont ces troupes? Il a d'abord les janissaires turcs, enfin sa force de police, c'est quelques milliers d'hommes, des contingents des baies de Constantine, d'Orange et du Titeri, c'est-à-dire les trois provinces
Constantine, Oran
et le Titeri, c'est-à-dire le Titeri. Au total, ils rassemblent à peu près 40 à 50 000 hommes, pense-t-on. Ils sont sous les ordres de l'aga Ibrahim, qui est son gendre. Et elles attaquent au matin du 19, en descendant du plateau de Staweli, les troupes françaises qui étaient là, bon, qui s'étaient installées parce que les Français avaient organisé un camp retranché dès son débarquement, rapidement, solidement. Le génie avait construit des fossés, etc., pour protéger les troupes et leur cantonnement. Donc, l'attaque se fait, mais elle se heurte à une défense, très puissante, très bien organisée surtout. Rapidement, les assaillants qui arrivent un peu en ordre dispersé, sans très grande coordination, paniquent en particulier les Kabyles, qui sont les moins motivés et qui se retirent les premiers. Et à 11h, donc au mois de. À cette époque-là, je ne sais plus s'ils avaient déjà inventé l'heure d'été, je ne crois pas.
Oui.
Enfin, à 11h, c'est-à-dire après 6 ou 7 heures de combat, la bataille est gagnée. Et du côté français, il y a une cinquantaine de morts et 500 blessés, à peu près.
Oui. Il y en a beaucoup plus de l'autre côté.
On pense qu'il y en a 10 fois plus de l'autre côté. Donc, la voie vers Alger est ouverte. Mais Bourmont ne part pas tout de suite. Il attend le débarquement de son artillerie et du matériel de siège.
Oui.
Parce qu'il sait que que Alger va être défendu, etc. Et donc, il faut qu'il ait son matériel et qu'il n'est pas extrêmement pressé. Évidemment, les troupes du Dé le harcèle
Bourbon,
les troupes de Bourbon, en particulier le contingent du Bey du Titeri qui s'appelle Mustapha Boumerzagre et qui est le plus bagarreur. Et dans ces batailles, le lieutenant Amédée de Bourbon, qui est un des quatre fils du général, est mortellement blessé à Sidi Khalef.
C'est ça. Mais oui.
Voilà donc, le fin juin, le 29 juin, donc ils ont débarqué le 14, donc au bout de 15 jours, Bourmont donne l'ordre de marche et emprunte le chemin qu'avait dessiné le chef de bataillon Boutin.
Oui.
Alors, je vais juste rappeler ça parce que c'est intéressant. Il avait été envoyé secrètement en reconnaissance à Alger par Napoléon Ier en 1808. Pour préparer une éventuelle attaque de Napoléon Ier. Et il avait d'abord constaté que l'attaque directe de la ville à partir de la mer était impossible, ou sans succès, car les défenses étaient très fortes. Et, Et comme il y avait eu les échecs donc de Charles Quint en 1541 et des Espagnols commandés par le général Orelli en 1775. Mais au cours de ses déplacements dans la région, parce qu'il avait fait ça, il était resté quand même quelques semaines, il avait vu qu'un débarquement serait possible dans la baie de Sidi Ferruche, qui était une quarantaine de kilomètres d'Alger, où il n'y a ni fortification ni artillerie. Donc ça veut dire que les bateaux arrivants pourront occuper le terrain assez facilement, à condition de bien s'y prendre.
Il y avait une plage.
Oui, il y a une plage, oui, il y a une plage qui n'est pas dominée, c'est relativement plate.
C'est ça.
Il n'y a que la presqu'île qui est un peu plus élevée, mais enfin...
Tu la connais bien.
Sûr, oui. Mais même plus, je te rappelle. Je te raconterai, mais pas maintenant.
Oui.
Bon, et et d'autre part, une fois parti de Sidi Ferruche, il avait repéré qu'on pouvait cheminer dans l'intérieur des terres pour aller prendre Alger à revers.
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'aurait pas en face toute l'artillerie et les troupes d'Alger.
Et la citadelle. Non, il n'y avait pas une citadelle.
Oui, il y a une citadelle. Non, oui. Mais la citadelle, c'est de tout.
Oui.
C'est le fort l'empereur. Et surtout, ce qu'il avait recommandé et ce qu'a fait le commandement français, c'est qu'ils ont amené des bateaux. Au moment où ils sont arrivés près d'Alger, ils ont amené des bateaux au large.
Voilà.
Ce qui fait que les troupes, à ce moment-là, bon, certes, il y avait eu le débarquement, mais les troupes du dé d'Alger se demandaient par où ils allaient être attaqués.
Oui, c'est ça. Par la mer ou par la terre. Oui.
Voilà. Donc, je reviens donc sur Boutin, parce que après, donc, c'est quelques semaines, je crois, 2 semaines ou 3 semaines en Algérie, dans la régence d'Alger, parce que le mot Algérie n'existait pas. C'était la régence. Il était reparti et il avait été fait prisonnier par un bateau anglais à son retour. Il avait dû, à ce moment-là, jeter à la mer ses papiers. Il avait été conduit à Malte, d'où il s'était échappé.
Qui était à l'époque sous domination anglaise. Oui,
oui, tout à fait. Et il était revenu en France via Constantinople, donc vous voyez un peu le chemin.
Oui.
Et là, il avait rédigé son rapport et reconstitué de mémoire ses dessins, qui sont de 13 planches conservées dans les archives.
Ah, c'est très intéressant, oui.
Et les planches, en particulier, indiquaient Sidi Ferruche, mais aussi les routes et les défenses d'Alger.
C'est ça. Donc, il s'appelait donc Boutin.
Boutin. Alors, c'est Yves, je ne sais plus son prénom.
Oui, peu importe. Oui.
Un prénom double dans lequel il y a Yves.
Et c'était un officier ?
Il était un officier du génie ou de l'artillerie, je crois.
D'accord.
Qui était chef de bataillon quand il allait là-bas, donc l'officier supérieur. Alors donc, l'armée française se met en marche par le chemin dessiné par Boutin et arrive rapidement près du fort qui s'appelle le fort L'Empereur.
C'est ça.
Sur un emplacement qui domine Alger.
Oui.
Et alors qui s'appelle Empereur, non pas en fonction de Charles Quint.
Oui.
Parce que Charles Quint, dans son essai, s'y était allé juste là.
Bon, d'accord. Bon. Alors, on va s'arrêter une seconde pour laisser passer Monsieur Bobineau.
Ah d'accord.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci Monsieur Bobineau. Alors Jean,
alors, donc,
reprends.
Ils arrivent sous comment ça s'appelle ? Sous le fort L'Empereur, enfin, près du fort L'Empereur, Bourbon installe son artillerie et commence à tirer sur Alger, ouvre de larges bresses dans les fortifications. À 9h du matin, les Turcs commencent à sortir sans combat pour s'enfuir.
Oui.
Et une heure plus tard, les derniers détruisent le fort en mettant le feu aux poudres.
D'accord.
Donc,
ils partent et ils font exploser.
Ils font exploser, bah oui. C'est...
Bien sûr.
Bon, et à ce moment-là, le dé envoie son secrétaire à Bourmont en lui proposant de payer les frais de campagne, de payer une indemnité et de faire des excuses au roi de France. Il avait compris que si on ne faisait pas d'excuses, on avait une intervention. Donc c'était 4 ans avant, c'était ce qu'avait demandé le roi de France. Donc il s'en souvenait. Les Bourbons répondent en exigeant une reddition sans condition, mais il garantit au dé que lui, sa famille et les Turcs auront la vie sauve et pourront quitter Alger avec leurs biens. Et que la population sera respectée. Le dé accepte ces conditions et l'armée française entre le 5 dans la ville devant une
population... Le 5 juillet.
Juillet, oui, oui. 5 alors, juillet, bah oui, c'est toujours le 5 juillet.
Oui, parce que c'est terrible, parce que pendant ce temps-là, Charles X va devoir affronter sur le plan intérieur. Oui, mais enfin, quel dommage.
Bah oui.
Quel dommage. Alors, et là, il a manqué de finesse avec Polignac sur la question intérieure.
Bien sûr.
Et d'autant plus que c'était fomenté par l'Angleterre, évidemment.
Oui.
On le sait très bien maintenant.
Oui, mais il ne savait
c'était
pas.
C'était la cavalerie de Saint-Georges.
Le 4 et le 5, il ne savait pas encore qu'Alger était prise. Parce
mais
que
c'est ça.
Téléphone, même arabe, ne fonctionnait pas à l'époque. Bon. L'armée entre dans la ville devant une population en apparence indifférente. Il n'y a eu aucun excès commis. Et je crois qu'il y a un Allemand qui s'appelait Pfeiffer, qui était présent sur place, qui écrit qu'il admira l'armée française qui se conduisit plus noblement que ne l'eussent fait les troupes de n'importe quel autre peuple.
Oui, je le pense.
Oui.
Je le pense, contrairement à tout ce qu'on a raconté. Et alors, justement, nous avons un ami auditeur qui nous envoie un message. Bonsoir, merci pour cette émission très intéressante. Question. Et combien d'esclaves blancs européens les Français ont-ils libérés en 1830 à Alger ?
Je ne sais pas. Je crois que quelques milliers. Parce qu'on parlait de 30 000, mais je crois que c'est le chiffre est gonflé. Je pense quelques milliers. Mais honnêtement, je n'ai pas regardé le...
D'accord. Bien courtoisement. Merci, chers auditeurs.
Bien, il faut savoir que les esclaves n'étaient pas en ville. Les esclaves étaient utilisés principalement pour cultiver dans les champs. Et donc, ils n'étaient pas forcément à Alger tout de suite.
Oui.
Alors, voilà ça pour le 5. Et le traité, à ce moment-là, il y a signature, le lendemain, du traité de reddition d'Alger, qui est dicté par le général de Bourmont à un juif qui était la seule personne capable d'écrire en français et dans la langue
et en arabe,
et dans la langue arabo-turque qui était pratiquée dans la Régence. Et il a été signé par le dé.
Alors, c'est très intéressant. Et alors, dis-nous quel est
alors,
cet acte de rédition.
Il comporte bien évidemment les clauses garantissant aux dé et aux Turcs leur liberté, qu'ils pourront partir avec leurs biens, etc., etc. Et il faut savoir que, comme les Turcs, on va le revoir tout à l'heure, étaient peu nombreux, ils n'avaient aucune envie de rester là-bas.
Bien sûr.
Mais il y a aussi un paragraphe 5 qui spécifie la liberté de toutes les classes d'habitants, le maintien de leur religion, de leurs lois, de leurs coutumes et de leurs propriétés, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte, les femmes seront respectées. Le général en chef en prend l'engagement sur l'honneur. Donc, et ça, c'est un élément très important. Donc, la liberté de toutes les classes d'habitants, le maintien de leur religion, de leurs lois et de leurs coutumes, le reste étant, etc. Et on verra.
Et de toutes les classes d'habitants, c'est important aussi.
Les classes d'habitants.
Parce que ça veut dire que ce n'est pas simplement les chefs qui seront respectés, mais c'est jusqu'y compris les plus petites classes, parce que là-bas, faut savoir que dans ces pays-là, à l'époque, la hiérarchie était terrible.
Tout à fait.
Il y avait notamment des... sinon des esclaves, en tous les cas, des populations subsahariennes qui étaient déjà utilisées comme main-d'œuvre et comme
tout à fait.
Et qui étaient très maltraitées en plus. Oui.
Alors justement, je dis cet engagement dans le traité de reddition d'Alger fut par la suite considéré comme un engagement de la France, non seulement à l'égard de la population d'Alger, mais à l'égard de toute la population de la Régence. alors que ce n'est pas du tout spécifié, c'est la reddition d'Alger. Donc, toute la population de la Régence, et ils seront jusqu'en 1958, donc pendant à peu près un siècle et quart, la source de toutes les difficultés concernant la citoyenneté et le droit de vote des musulmans. Le cas de la population juive, qui sont couverts aussi par ça, parce qu'ils étaient dans les classes d'habitants,
bien sûr.
Lui sera traité en 1871 par le décret Trémieux.
C'est ça.
Donc voilà, on est là, et on a là la pièce
suite,
numéro
la suite,
1
oui.
De toute la vie de l'Algérie, de la Régence d'Alger, jusqu'à 1958, 62 et jusqu'à aujourd'hui. Enfin, les conséquences jusqu'à aujourd'hui.
Oui, et parce que on a respecté
la parole
et l'organisation sociale telle qu'elle existait. La France n'a pas voulu, dès le départ, toucher à cet édifice qui existait.
Mais non,
respectant non seulement la religion,
on maintient la religion, les lois et les coutumes.
Bien sûr.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas changer le.
Oui, il y aura pas par exemple, il y aura pas de code civil, il y aura pas de code pénal, il y aura pas. Enfin, il y aura un code pénal, mais le code pénal décaïde.
Tout à fait. Alors donc ça c'est là. On est donc le 5 juillet
1830
avec la France occupe Alger. La Régence d'Alger. Et la Régence d'Alger, alors, on verra tout à l'heure que la Régence d'Alger, ce n'est pas un monolithe, etc. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La France va être à la recherche de camps faire. Donc, à Paris, il y a eu les journées de juillet 1830 qui ont entraîné le départ de Charles X et l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe d'Orléans.
Oui.
Mais en même temps, le général de Bourbon, qui est devenu maréchal, informe ses troupes le 16 août du changement
de
régime en France. Et le lendemain, il fait hisser le drapeau tricolore sur la Casbah à la place du drapeau fleur-de-lysée. Mais comme il est légitimiste et qu'il commande une armée nombreuse, le nouveau pouvoir installé à Paris il relève de son commandement. Et le 3 septembre, et il nomme à sa place le général Clausel. Alors Bourbon part rejoindre Charles X à Londres, et je crois en passant par l'Espagne, parce que c'était plus facile.
Il ne pouvait pas faire autrement. Oui.
Alors, il y avait d'abord un premier débat en France, qui était, on a pris Alger, et faut-il partir ou rester? Bon, il y avait eu des députés, enfin des hommes politiques français disant on n'a rien à y faire, il faut qu'on s'en aille. Beaucoup d'autres disaient le contraire. Et certains pays européens, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient dit si vous y restez, ce sera très bien. Et donc, cette question de l'avenir de la Régence est très rapidement traitée dès le 15 juillet. Donc, on est en pleine révolution. Le gouvernement de Polignac ordonne à Bourbon d'exiger l'hommage des baies de Constantine, d'Oran et du Titéri, c'est-à-dire de la province.
On est encore sous Charles X. Là.
On est encore sous Charles X, puisque c'est Polignac. Et avant son départ, donc fin juillet, Bourbon crée à Alger un conseil municipal qui est composé de Maures, c'est-à-dire de musulmans, et de juifs. Puisqu'il n'y a que ça comme population. Et pour contrôler la côte, il envoie des troupes à Beaune et à Oran. Voilà donc le
tout
début.
À fait au départ. Donc Beaune, ça fait combien de kilomètres d'Alger?
Oran, ça doit 150, ouais. 150 de chaque côté.
Donc ça veut dire quand même que dans l'idée de Bourbon, c'est-à-dire en gros du commandement militaire, hein, parce qu'on peut penser que tous ces gens-là conféraient entre eux.
Oui.
L'idée, c'est on s'installe d'abord sur la côte. On a Alger, il faut avoir Beaune et Oran, ne serait-ce que pour voir. Voilà.
L'intérieur, la mission au départ, c'est de prendre le contrôle de la côte, puisque la côte, les Turcs ne sont ça. Que sur la côte.
C'est ça.
Donc, il n'y a pas pour le moment de volonté d'occupation territoriale.
Ouais, oui.
Il y a une volonté de rester là-bas,
oui.
Mais les Turcs contrôlent oui. le pays, mais ils sont à Alger et quelques villes de la côte, c'est tout.
C'est tout, oui, c'est ça.
Donc, alors, au mois d'octobre, donc, le nouveau ministre de la guerre, je ne me souviens plus, non, écrit à Clausel, qui a remplacé Bourmont
oui.
à son départ, écrit à Clausel en lui disant « Le gouvernement est dans l'intention de fonder sur les territoires d'Alger une importante colonie. » Mais là, le mot « Alger » veut dire la ville.
Oui, oui, bien sûr.
C'est pas
l'Alger. Oui,
donc là, on est vraiment sur
oui,
une...
Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le mot même d'Algérie n'existe pas encore.
N'existe pas. Mais là, c'est, la ville existe. Mais la forme n'en est pas encore définie. De oui. cette, bien sûr. Donc l'administration est confiée à un comité du gouvernement bien séparé de l'autorité militaire et... On crée une cour de justice pour les Européens, tandis que les musulmans continuent d'être jugés par les cadis et oui, les juifs par les tribunaux ça. Rabbiniques.
Voilà.
Voilà. Donc on maintient le système allant pour les
oui,
populations.
Oui, on voit très bien comment ça s'est fait. Mmh. Et d'ailleurs, c'est assez naturel et ça s'explique fort bien.
Mmh.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? C'est composé de civils ou...
Oui, mais il n'y a quasiment personne.
Bien sûr, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait que les militaires.
Exactement. Oui, tout à fait. Je... Oui, mais il faut... Mais le c'est pour ceux qui est séparé de l'autorité militaire,
c'est ça.
Pour essayer de gérer les civils. Si
c'est
on...
ça.
Les
ça.
Militaires ayant autre chose pour sortir leur sabre et pour se défendre.
C'est ça.
Alors, une chose importante, c'est que l'effondrement de l'autorité turque qui est dans la régence, mais qui contrôle un peu les tribus, a été suivi par une période d'anarchie dans l'intérieur du territoire et avec des conflits entre les tribus et des attaques de villes, etc. Et on vit apparaître deux tendances à ce moment-là. Dans la population musulmane, le parti français qui cherche l'appui de la France, par exemple, la population de Blida qui demande à être protégée des exactions des Kabyles.
Alors Blida, vois... c'est où toi qui connais bien la...
Blida est disons, au sud d'Alger, à une quarantaine, 50 kilomètres d'Alger. Mais Blida est au endroit où la plaine de la Mitidja s'arrête et que la montagne arrive. Donc les Kabyles étaient dans la montagne. Parce que, alors. Je en parlerai un peu tout à l'heure.
Oui.
C'est ça.
Donc il y a une partie de la population qui est dans le fond est favorable.
Une ville, non, c'est une ville, une petite ville qui dit on est attaqué par
les
Kabyles, mais avant les Turcs empêchaient ça. Maintenant vous êtes à la place, venez nous aider.
Voilà, d'accord.
Et en même temps, aussi il y a de nombreux jeunes. Disons une vingtaine d'années, qui s'engage dans l'armée française dès l'automne 1830, et c'est la création des Zouaves. Donc, et c'est pas un engagement, un ressentiment.
C'est très intéressant.
En 30, donc, ils viennent en
dès
disant,
1830.
Mais tout simplement parce que on vient se défendre, nos parents, etc., etc.
C'était déjà l'autodéfense.
Oui, tout à fait. Et de l'autre côté. Donc ça, c'est les Provençais. De l'autre côté, il y a un mouvement des tribus qui cherchent à garder l'autonomie dont ils disposaient dans le système turc, voire même augmenter cette autonomie, puisque les Turcs ne sont plus là. Et donc, ils sont hostiles à la présence française. Et ces deux mouvements de la population indigène vont marquer toute l'histoire de l'Algérie.
Et alors, c'est plus spécifiquement, on sait un peu quelles sont les tribus ou quelles sont les populations. Tu parles des Kabyles,
les
Berbères, il y a les Arabes.
On en parlera un peu tout à l'heure, mais c'est... J'en parlerai un peu tout à l'heure.
D'accord.
Et ces deux mouvements vont être les mouvements dans toute la population indigène de l'Algérie, en sachant que les Européens, on ne les appelle pas indigènes, on les appelle même après, on ne les appellera pas indigènes.
Enfin, oui, bon. Bien sûr.
Et ça marquera toute l'histoire de l'Algérie française, avec d'un côté la confiance dans la France, et qui se terminera par les Harkis,
oui.
Et de l'autre côté, la formation d'un nationalisme qui se terminera par le FLN.
Oui, c'est ça.
Alors, voilà ça. On reviendra sur cet aspect-là. Mais très rapidement, là, je brosse un peu le panorama.
Oui, le tableau général.
Mais très rapidement, il y a des Européens, Français, Espagnols, Maltais, Italiens, qui arrivent à Alger.
Dès 1830.
Et qui s'installent d'abord dans les villes comme commerçants. Parce que, ben, regardez, les batteries, etc., ils connaissaient Alger, ils étaient déjà commerçants.
Bien sûr,
donc,
bien sûr.
Ils s'installent comme commerçants, puis dans les campagnes. Il faut se souvenir aussi que ces années-là, les années 30, etc., c'était des années où, en Europe, ce n'étaient pas les années les plus riches de l'Europe.
Hein. Oui, bien sûr.
Donc, ils viennent souvent parce que...
Par nécessité.
Et Clausel, donc il commande, y est très favorable parce que il y voit la possibilité de créer en Algérie le même phénomène que celui qui s'est passé et qui continue à se passer à ce moment-là dans les Amériques.
Oui.
Avec oui. L'immigration européenne
oui.
qui arrive anglaise, mais
et,
aussi.
Et qui renforce
française,
la population.
Oui, tout à fait, qui renforce la population et qui développe oui. le pays. Et Clausel se dit ça, c'est très bien.
Alors,
pour accueillir ces populations, à la fin de 1830, il fait prendre par les domaines, la responsabilité par les domaines, donc
oui,
notion
oui,
française.
L'organisation française, oui.
Des biens, des beyliks et des habous. C'est-à-dire les biens étatiques pour les beyliks. Et les habous, c'est les biens des confréries religieuses.
Alors, il les fait saisir.
Il les fait prendre par les domaines.
Oui, c'est-à-dire saisir.
Saisir. Oui. Mais avec obligation pour les domaines d'en assurer la gestion. Et c'était d'ailleurs ce que faisaient les autorités turques, parce que les beyliks, ils avaient ces territoires, mais pour les faire fructifier, par exemple.
Ils devaient être tribus.
Et ils devaient être tribus ou la récolte, hein, selon les cas.
Alors, donc les beyliks. Alors, qu'est-ce que explique un peu à nos auditeurs?
Non, mais le beylik, ce sont les possessions des baies.
Voilà, c'est ça.
Il y avait les trois baies, donc ils avaient des territoires, c'est les possessions du gouvernement régional.
Voilà, exactement. D'accord, qui étaient en fait des possessions patrimoniales, mais qui appartenaient aux représentants ottomans.
Oui, c'est ça. Hein?
Et les autres
ils appartenaient aux congrégations religieuses, etc., ou au gouvernement ottoman qui finançait les congrégations religieuses. Parce qu'il faut se souvenir que dans le système turc, c'est le Coran et la charia.
Bien sûr.
Donc
oui.
L'État
oui,
a ce devoir.
Bien sûr. Alors, nous avons un auditeur. Émission très intéressante, merci. Voici une information qui, je crois, n'a pas été évoquée. En octobre 1664, on revient un peu en arrière, la France de Louis XIV a organisé une expédition en Algérie, ville de Djibéli. L'occupation durera 3 mois, mais sans renfort à cause d'une épidémie de peste à Toulon et la région. Les troupes françaises rembarqueront. Voilà.
Bon. D'accord. Je ne
merci,
pas.
Hein, merci.
Oui, merci beaucoup. Hein. Alors, donc, les domaines ont ça, et ça, donc, ça, si tu veux, c'est, enfin, si tu veux, Clausel, c'est avoir une réserve de terre pour
bien
les immigrants.
Mais bien sûr.
Alors, Clausel anticipe, parce qu'il fait créer à Maison Carrée, donc près d'Alger,
oui.
Une ferme modèle, qui est destiné, dit-il, à ouvrir à la colonisation une voie sûre.
Oui.
Et 2 ans plus tard, l'intendant civil, qui s'appelle Gentil de Bussy, fut l'initiateur de la colonisation par village et il a fait créer le jardin d'essai près d'Alger pour, dit-il, propager la culture des végétaux les plus utiles et auxquelles conviennent les sols et le climat de l'Afrique.
Mais c'est très intéressant. Et il existe toujours ce...
Bien sûr. Je vais faire une conférence au Cercle algérianiste de Neuilly, il y a quelques mois, sur justement le jardin d'essai.
Ah oui.
Il existe toujours.
Alors, et il existe toujours, même encore maintenant.
Bien sûr.
Il n'a pas été détruit.
Non, il n'a pas été détruit. Alors, autre chose aussi, je repense là-dessus, l'insalubrité du territoire.
Ah ben oui.
Bon, nécessite une forte action médicale. Donc il y a d'abord pour protéger l'armée, bien évidemment, mais aussi pour protéger tous les civils européens et indigènes. Et alors, des hôpitaux sont créés en 1832, donc c'est pas longtemps
tout
après,
suite, oui, tout
il y a l'hôpital Caratine qui est créé. Et quelques années...
Et où cet hôpital ?
Dans la banlieue d'Alger.
Il existe toujours ?
Je crois pas, parce que c'est tout petit. Mais quelques... Je crois que c'est en 37 ou 38, est créé l'hôpital de Mustapha.
Oui.
Bon, qui lui existe toujours. Oh. Et où mon grand-père et mon père ont été chefs de service.
D'accord.
Bon, alors, il faut aussi citer un nom bien oublié. C'est celui du docteur Maillot, M-A-I-2-L-O-T. Et ce docteur, qui est médecin militaire, étudie les fièvres des soldats,
bien sûr,
etc.
Bien sûr.
Et le traitement possible. Et
Parce qu'il y a eu beaucoup de morts, hein, je crois, quand même.
Oh, oui, tout à fait. Oui. Et il préconise l'utilisation du sulfate de quinine à haute dose contre le paludisme,
oui,
permettant de maîtriser cette maladie.
C'est ça. La quinine est née de là.
Oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça. Voilà. Alors, voilà donc les trois ou quatre premières
contre
années.
Le palu.
Et en 1833, le gouvernement, cette fois-ci de Louis-Philippe, crée la Commission d'Afrique, crée à Paris la Commission d'Afrique, qui est destinée, dit dans le décret de création, à éclairer le gouvernement sur l'état du pays et sur les mesures que réclame son avenir. Et un an plus tard, après cette commission, il y a une ordonnance du maréchal Soult, qui est le président du Conseil, qui institue le régime des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, entre parenthèses, ancienne régence. Donc le commandement militaire et la haute administration du territoire sont confiés à un gouverneur général qui dépend du ministère de la guerre et toutes les décisions importantes seront prises par ordonnance.
Ça se comprend, bien sûr.
Et donc là, il s'agit de l'acte de naissance de l'Algérie.
Bien sûr.
Mais donc c'est le 22 juillet 1834.
Et le nom d'Algérie apparaît à ce moment-là ?
Pas encore. Non,
pas
le
encore,
nord de l'Afrique n'apparaît pas.
Ouais.
Mais c'est la naissance,
oui,
d'un État. Alors que jusque-là, ce qu'on va voir, ça n'était pas le cas.
Et ce gouverneur, il est militaire ou il est...
Non, c'est un gouverneur général.
Oui.
Et qui dépend du ministère de la guerre.
Oui, d'accord.
Et il n'y a pas de... on ne dit pas de quelles doivent être la couleur de ses épaulettes.
D'accord.
Et la Commission d'Afrique définit aussi, à ce moment-là, que la politique à suivre est celle de l'occupation restreinte.
Oui,
je me souviens
de cette expression.
C'est-à-dire de conserver les villes fortifiées ainsi que les territoires que nos troupes peuvent facilement défendre et chercher à étendre l'autorité et l'influence de la France venant des droits qu'elle tire de la conquête qu'il a substituée à la régence. Donc voilà, on est en 34, donc... 4 ans.
On ne peut pas tout occuper, une partie,
donc,
et la partie qui est défendable.
Défendable. Et qui est d'ailleurs celle à peu près où étaient les Turcs, avant.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc ça c'est l'aspect 1834. Moi j'ai toujours le... Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une première chose, c'est que le commandement français ne réalise pas, à ce moment-là, donc au bout de 2 ans, la complexité politique de la régence. Il voyait les Turcs diriger et la force et les antagonismes qui s'y affrontent. parce que la présence turque depuis le milieu du 15e est limitée à Alger et à certains points de la côte.
Oui.
Et il faut se souvenir que ce ne sont pas les Turcs qui sont arrivés, c'est que en 1540, les Turcs sont arrivés à la demande des pirates barbares, oui. C'est-à-dire des frères Barberousse.
Oui,
donc c'est intéressant de voir qui sont les frères Barberousse. Ce sont deux hommes dont le père est un renégat chrétien.
Renégat chrétien.
Oui, c'est-à-dire un chrétien.
Ah oui, qui a apostasié.
Exactement. Mais on ne sait pas, comme on est plus ou moins dans l'armée, on ne sait pas si ce n'est pas un janissaire. Parce qu'auquel cas, un janissaire, c'est en gros un janissaire sous la menace.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc, les deux Barberousse sont nés en Grèce, dans l'île de Lesbos. Donc,
oui,
vous voyez, c'est,
oui,
etc. Et ont fait de la piraterie. Ils ont navigué, ils ont fait de la piraterie leur métier. Donc, ils ont, en bateau, à chaque fois, ils ont eu une flotte à ce moment-là. Et en Espagne, ils sont allés attaquer l'Espagne et la côte et, oui, des Baléares. Enfin, attaquer. Ils sont allés piller.
Oui.
Parce que c'est ça leur métier. Alors, ils ont été appelés à Alger par l'aga, c'est-à-dire le commandant local, pas le dé, mais l'aga, pour aider l'aga à reprendre le Peñón occupé par les Espagnols. Parce que depuis 1504 ou à peu près, les Espagnols avaient laissé à Alger, sur le Peñón, qui est l'île un peu reliée à la terre, qui ferme le port d'Alger, enfin qui aujourd'hui ferme le port d'Alger, quelques soldats.
Oui.
Qui gênaient les Espagnols. Ça n'empêchait pas les pirates de sortir, parce que quelques Espagnols sur une île ne peuvent pas empêcher les bateaux de passer. Mais alors, il faut se souvenir pourquoi les Espagnols. C'est que l'Espagne, comme je disais tout à l'heure, après la Reconquista, après la prise de Grenade, prise par Isabelle et d'Astille et Ferdinand d'Aragon, a eu une fille qui est la mère de Charles Quint, et Charles Quint poursuit, et poursuit ce qu'avaient fait ses parents, et tente de reconquérir l'Afrique du Nord. Donc il attaque Alger en 1540, et il prend, après avoir pris Oran en 1502. Donc, comme il attaque Alger en 1540, c'est là où les frères Barberousse disent au sultan, viens nous aider. Enfin, envoie des troupes pour nous aider. Donc, et le sultan envoie des janissaires et met en place un début d'administration, mais pas de colonisation.
Oui,
parce que son objectif, ce n'est pas d'envoyer du monde,
oui,
c'est envoyer des militaires pour contrôler le pays et surtout pour garantir qu'on prélève le tribut, l'impôt, les trucs comme ça, etc. etc. Et surtout, contrôler la piraterie, c'est-à-dire prélever son dû sur les cargaisons, les esclaves et autres. Mais il n'y a pas de résidence de Turcs à Alger. Et même, ça va plus loin, c'est que, bon, mais bien évidemment, les militaires turcs ont quand même des besoins sexuels.
Oui.
Et qu'ils satisfont avec des femmes indigènes, principalement arabes, ou des esclaves.
À qui ils donnent un statut particulier.
Ah non, alors, pas aux femmes, mais les enfants.
Oui, les enfants.
S'appellent les Kougougli.
C'est ça.
Mais ce ne sont pas des Turcs. Donc, quand les parents, quand le père, quand il repart avec au moment des rotations, il laisse les femmes pour les autres et les enfants restent là. Et donc les Kouloudli sont principalement à Alger et à Tlemcen, mais sont profondément méprisés tant par les Turcs que par les indigènes.
Oui.
Qui, pour eux, c'est des fils de pute.
Oui, c'est ça.
Excusez-moi pour mon mauvais vocabulaire sur la radio. Et Donc, en 1830, ils sont essentiellement sur la côte. Ils ont Alger, Oran, Beaune. Et le reste, non, parce qu'entre les deux, la côte est très inhospitalière, il n'y a pas de port. Donc, ce n'est pas la peine d'être là. Ils sont que là pour contrôler l'argent qui rentre.
C'est ça.
Et l'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dey à Alger, nommé par la Sublime Porte, et un dey à Alger, pardon, et trois B, Oran, Tityri, Constantine, et je pense que le quatrième, c'est le Tunis. Et
Oui.
je n'ai pas regardé s'il
Oui.
dépendait effectivement du dey ou pas, parce que quand je traite l'Algérie, la
Oui.
Tunisie n'y a jamais été.
Oui.
Alors, les indigènes, eux, vivent dans des tribus. Attends, tribus avec un S, hein, pas,
Oui.
U-S, c'est pas de T. Alors, et là-dedans, les tribus, il y a tout un échantillonnage. Il y a d'abord ce qui s'appelle les tribus du Madzen, proches des villes, qui sont sous l'autorité ou presque des Turcs.
Et que veut dire Maxen?
Madzen, c'est le gouvernement.
C'est ça.
Alors, et il y a ensuite les tribus arabes, qui sont essentiellement des éleveurs et des nomades de langue arabe, donc ils se trouvent dans les plaines. La Mithidja, etc., etc., mais qui n'ont, pour ainsi dire, pas de ville. Les villes sont, par exemple, Tlemcen est occupée, qui était une ville depuis très longtemps,
Oui.
mais est occupée essentiellement par les Turcs
Oui.
et par les Touloudli.
Voilà, c'est ça.
Donc, donc, il y a les éleveurs et les nomades, et il y a les Berbères qui sont sédentaires dans la montagne et qui parlent là où les langues berbères, je ne me souviens plus du nom, qui habitent les régions intérieures de l'Afrique du Madzen.
Oui.
Et ces berbères étaient là depuis longtemps, c'est-à-dire depuis l'époque des Phéniciens et des Romains,
Oui.
et avaient été.
C'est le royaume de l'ancien royaume de Jugurtha. Oui.
Exactement. Et ils avaient été christianisé parce que il y a Saint-Augustin est de cette région-là,
Et berbère.
et berbère. Voilà
On se demande d'ailleurs comment va se passer le voyage de notre pape là-bas
non mais
en Algérie.
je crois que c'est très
C'est
important
très
de voir ça.
important,
Et
oui, bien
d'ailleurs, les
sûr.
berbères ont été islamisés, mais beaucoup de berbères que je connais, enfin, me disent que l'islamisation a été de surface,
Oui.
c'est-à-dire qu'elle a été destinée à ce que ils soient considérés comme des musulmans et pas comme
Des dhimmis.
des dhimmis, exactement.
Et alors, il
Et
te
donc,
reste quelques minutes, hein, 4 minutes, on va dire.
ah, bon,
Ça va très vite.
je suis
Non, non, mais
désolé, je
c'est
vais pas.
passionnant. Non, non, mais c'est passionnant.
Voilà,
Continue, continue, nos
donc
auditeurs comprennent parfaitement. On
les
aura
tribus.
l'occasion d'y
Et
revenir.
ces tribus sont indépendantes les unes des autres,
Oui.
souvent en conflit les unes avec les autres, avec les
Autres.
territoires, surtout par exemple les conflits entre les nomades et les sédentaires. Mais ça, on
Oui,
connaît ça
oui.
dans le monde
Et
entier.
les conflits de
Et
pâturage,
oui, tout à
comme
fait.
beaucoup.
Et les Turcs ont toujours tout fait pour éviter des ententes entre tribus,
Bien
de
sûr.
façon à conserver le pouvoir.
Bien sûr.
Voilà. Bon, alors
Ça va être.
l'esclavage est présent partout, surtout d'ailleurs dans les régions turques et arabes.
Oui.
Beaucoup plus parce que les berbères sont dans la montagne et
Oui.
cultivent eux-mêmes leurs terres.
Et ils ont d'esprit libre en plus. Oui, ils ne sont pas,
Voilà.
c'est pas des
Alors,
esclavagistes, oui.
les juifs sont uniquement dans les villes. Bon, ben, je crois qu'il
Voilà.
nous reste 3 minutes.
Eh bien, il reste, oui, quelques minutes. Alors, je dis tout de suite à nos amis qui nous écoutent, à nos auditeurs, que nous reprendrons très régulièrement, à peu près une fois par mois, sauf quand il y aura des événements tragiques en France et ce qui est possible, ou dans le monde, avec mon ami Jean Larmande, nous reprendrons cette étude de l'Algérie pour arriver dans les années 58 et 62.
Voilà,
Parce
exactement.
que il s'agit de
Vous venez
comprendre.
1958, parce que là, tout à
Oui,
l'heure, on
bien
était
sûr,
en 1800.
on est bien d'accord. Et pour bien comprendre cette affaire d'Algérie dont nous sommes, la France, terriblement dépendants. Nous, les Français, nous sommes terriblement dépendants. On a voulu se séparer, mais il fallait trouver une autre solution que cette séparation qui a été tragique en plus, qui s'est très mal opérée, qui s'est très mal faite et dont nous payons aujourd'hui les conséquences.
Alors, quand vous dites qu'il fallait s'en séparer, vous permettez-moi d'avoir un point de vue complètement différent. Mais ça,
Pour
vous avez dit, il faudra s'en. On s'en est séparé. Il fallait s'en séparer.
Non, non, j'ai jamais dit ça.
Ah, j'ai cru le comprendre.
Ah,
ça.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on s'en est séparé et ça a été une catastrophe. Au contraire, oui. Tu le sais bien que j'ai. Bon, quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans, j'étais Algérie française. Je me souviens, ma première manifestation, c'était, j'avais 14 ans, c'était en 1958 sur les Champs-Élysées. Et Algérie française, ce n'était pas un mot grossier. La preuve en est, c'est que De Gaulle l'a prononcé à plusieurs reprises, en disant que jamais, lui vivant, le drapeau FLN ne flotterait sur Alger. Mais on connaît ce que c'est qu'une parole du général
De Gaulle. Alors donc, mais, chers auditeurs,
dans un mois,
préparez dès maintenant vos questions.
Exactement.
Non, mais je remercie ceux qui nous les ont posées et envoyées. Et n'hésitez pas à les envoyer à l'avance.
Oui.
On pourra.
Pourquoi pas.
Quand on vous épichera la date de la prochaine émission, n'hésitez pas.
Et ben c'est dans exactement un mois, un mardi, à
9h30.
Merci, mon cher Jean. Et tu nous raconteras un petit peu quand sont arrivés tes ancêtres sur la terre. Sur la terre d'Algérie.
Non, mais quand on parle de la colonisation, je utiliserai ça comme exemple.
Oui, exactement. Quand on pense. Allez, merci, chers auditeurs. Et à mardi en case.
D'entendre le libre journal de la réaction dirigé par Hilaire de Crémier. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 24 mars 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.